Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 27 février 2020. Le coronavirus se propage désormais plus rapidement hors de Chine. C'est notamment le cas en Italie. L'épidémie a également des conséquences sur l'économie et les bourses mondiales. Aux États-Unis, la course à la primaire démocrate continue. Les candidats tentent actuellement de s'attirer le vote des électeurs afro-américains alors que le prochain scrutin aura lieu en Caroline du Sud. Et puis, on ira aussi faire un tour en France, actuellement en pleine campagne pour les élections municipales. Parmi les candidats, il y en a un qui est aussi Premier ministre. On se rendra au Havre pour voir comment se passe la campagne pour Édouard Philippe. Et c'est donc le coronavirus qui continue de dominer l'actualité internationale puisque, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le virus se propagerait désormais plus rapidement hors de Chine, même si l'organisation se refuse toujours pour l'instant de parler d'une pandémie. C'est notamment le cas en Europe. De nouveaux cas ont été détectés ces derniers jours dans plusieurs pays et plus particulièrement en Italie, où les autorités recensent désormais 400 cas d'infection et déjà 12 décès. Une situation qui inquiète évidemment énormément puisque les cas de coronavirus apparus dans les pays alentours comme la Suisse, la Grèce, la Croatie, l'Autriche ou encore l'Algérie trouveraient tous leur origine en Italie. La France non plus n'est pas épargnée. Elle a même annoncé hier un premier décès lié au coronavirus, un homme de 60 ans qui ne s'était rendu dans aucune des zones à risque. Ceci étant dit, petit à petit, la recherche avance. À défaut d'avoir mis au point un vaccin, les médecins ont identifié un traitement qui semble efficace. Il s'agit d'un médicament antipaludique qui s'appelle la chloroquine. Je vous propose d'écouter les précisions de Hans Kluge. Il est le directeur Europe de l'OMS.
It's not only a matter of treatment, also of...
Ce n'est pas seulement une question de médicaments, mais aussi de vaccins. À ce jour, il n'y a pas de traitement efficace, mais il y a différents essais cliniques en cours. Par exemple, il y a la chloroquine et des antivirus. Nous partageons ces expériences, et pour les vaccins, il faudra 1 an et demi, mais si nous coordonnons nos efforts, nous irons peut-être plus vite. D'où l'importance d'échanger nos informations, notamment avec la Chine, qui a acquis une énorme expérience en traitant un grand nombre de malades.
Of treating big numbers of patients.
Et oui, mais en attendant, le coronavirus commence aussi à avoir des conséquences sur l'économie mondiale. C'est notamment le secteur du tourisme qui est touché ici en Australie, mais également en France et bien entendu en Chine. Mais depuis le début de la semaine, c'est aussi le cas des bourses mondiales. Recul de 3,9% mercredi à la bourse de Paris, de plus de 5% à Milan. À New York, le cours de la bourse baisse également depuis maintenant 5 jours d'affilée. Et c'est pareil en Australie où le défissage du cours de l'ASX a déjà fait perdre plus de 130 milliards de dollars australiens aux valeurs cotées. Les monnaies ne sont pas non plus épargnées, en particulier les devises asiatiques, qui elles aussi ont perdu pas mal de plumes ces derniers jours. Mais c'est en fait parfaitement normal dans ce genre de situation, d'après Pierre-Antoine Dussolier. Il accompagne les entreprises lorsqu'elles font des transactions en devises. Agnès Cacoumore l'a interrogé pour RFI.
Lorsque un événement important se passe au niveau mondial, on se rend compte qu'il y a une course vers les valeurs refuges, par exemple le dollar ou le franc suisse. Devise après devise, on a remarqué ces petits mouvements sur chacune des devises. Ces mouvements, on les avait déjà vus depuis plus d'un mois. Par exemple, on peut parler du dollar australien, gros producteur de matières premières, dont un des principaux clients est la Chine. L'Australie va vendre sûrement moins de matières premières dans les semaines et les mois à venir à la Chine. D'autres exemples, c'est le baht thaïlandais, c'est la devise de la Thaïlande. Elle a été aussi touchée, c'est lié au tourisme en fait. Toutes les devises asiatiques baissent, hein, forcément. On se rend compte que les gens ont peur. Du coup, le commerce mondial et la mondialisation en général se sont ralentis fortement. Et il faut attendre encore quelques jours, quelques semaines pour savoir si ce virus aura vraiment un impact très fort sur la croissance.
Actuellement, en déplacement à Londres, c'est Raed Al-Saleh, qui vient de lancer un appel à l'aide. Cet homme est le directeur de la Syria Civil Defense, une organisation qui vient en aide aux victimes du conflit qui oppose les derniers insurgés aux troupes de Bachar el-Assad et dont les membres de la Syria Civil Defense sont connus sous le nom des casques blancs. Eh bien, leur directeur, Raed Al-Saleh, donc, appelle aujourd'hui depuis Londres les puissances mondiales à venir aider les milliers de civils qui se retrouvent pris entre les feux des belligérants dans la province d'Idlib.
There aren't words in the Arabic language that can accurately describe the tragedy and the catastrophe that is happening there. There is no shelter. There is no heating available. People are burning their old clothes, and we have scores of elderly people and children who died because of the cold.
Aux États-Unis, les candidats à la primaire démocrate sont désormais focalisés sur les électeurs noirs américains. Après un dernier débat télévisé qui a tourné au pugilat, les candidats essaient désormais d'afficher une certaine unité. Le prochain vote, dans le cadre de la primaire démocrate, se déroulera en Caroline du Sud, un État où la population afro-américaine est très importante. La correspondance de Lubna Anaki pour Radio France Internationale.
Après le chaos et le pugilat télévisé d'hier, les candidats à l'investiture démocrate étaient ce matin invités à un petit déjeuner organisé par le révérend Al Sharpton, figure respectée des droits civiques. Petit déjeuner visant à mobiliser les églises noires pour l'élection présidentielle. L'occasion aussi pour les candidats de défendre leur politique en faveur des minorités et de courtiser le vote noir avant la primaire de ce samedi. Car en Caroline du Sud, les Afro-Américains représentent les deux tiers de l'électorat démocrate. En l'absence de Mike Bloomberg, les candidats ont essayer d'apparaître moins agressifs les uns envers les autres. Malgré les coups que l'on peut s'envoyer, ce qui nous unit est beaucoup plus important, a déclaré Amy Klobuchar. À 3 jours du vote dans cet État du Sud, Joe Biden, qui joue sa campagne, vient de recevoir un soutien de taille. Le plus important membre afro-américain du Congrès appelle les électeurs à voter pour lui et Joe Biden veut encore y croire et dit, je cite, « La Caroline du Sud choisit les présidents des États-Unis ». Joe Biden qui s'est pris une salve de tweets critiques de Donald Trump. Le président américain n'a pas manqué de souligner les erreurs commises par l'ancien vice-président lors du débat d'hier. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et on reste aux États-Unis où Salma Hayek, l'actrice Salma Hayek, qui est également l'épouse du milliardaire français François-Henri Pinault, se félicite de la condamnation du producteur déchu Harvey Weinstein. Elle avait été l'une de celles qui avait dénoncé les agissements de l'ancien magnat d'Hollywood, qu'elle avait même qualifié dans une interview au New York Times de monstre. Eh bien, sa condamnation, pense-t-elle, est une forme d'émancipation pour les femmes qui auront à l'avenir sans doute moins peur de dénoncer des faits de harcèlement.
I'm just happy that people now know that there are consequences because for a long time there were no consequences and a lot of people thought that they could get away with anything and I think that now that is going to change and I think that also women are going to feel empowered to speak their truth and demand to be respected.
Et le procès d'Harvey Weinstein aux États-Unis vient de se terminer. Celui de François et Pénélope Fillon à Paris, lui, commence tout juste. Il a démarré en fait hier, pour être plus précis. Pour rappel, on reproche à l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy d'avoir employé fictivement son épouse comme attachée parlementaire, une affaire dont la révélation dans les mois qui ont précédé l'élection présidentielle de 2017 avait torpillé la candidature de François Fillon. Mais hier encore, à vrai dire, ça n'était pas vraiment le début sur le fond de l'affaire du procès. Il s'agissait en fait davantage d'un tour de chauffe. Pierre-Olivier y était pour RFI.
Vêtu d'un costume bleu marine et d'une chemise bleu clair, François Fillon entre pour la deuxième fois de la semaine dans la salle d'audience. L'ancien Premier ministre est accompagné de son épouse Pénélope à la coiffure impeccable. Le public, qui s'est massé dans la salle, tente d'apercevoir le couple assis au premier rang près des journalistes. Puis, avant que les débats ne commencent, la défense soulève deux QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité. L'une d'entre elles porte notamment sur le délai de prescription. L'avocat de Pénélope Fillon estime que les faits reprochés à sa cliente il y a plus de 20 ans devraient être considérés comme prescrits. Après de longues minutes de justification, le procureur financier prend à son tour la parole et lance avec un sourire que serait un grand procès pénal sans QPC. Une façon de rappeler à la Cour que le recours des avocats de la défense à ces QPC est connu et permet généralement de retarder un peu plus encore le début des débats. Ce jeudi, le tribunal dira s'il décide de transmettre ces QPC au Conseil constitutionnel et le procès des époux Fillon devrait enfin vraiment commencer. Pierre-Olivier au tribunal de Paris, RFI.
Allez, on reste en France pour dire un mot maintenant des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Pour parler d'un candidat pas comme les autres, puisqu'il s'agit du Premier ministre, Édouard Philippe. Il était maire du Havre avant d'être nommé à Matignon par Emmanuel Macron et il y est depuis resté conseiller municipal. La campagne sur place n'est évidemment pas facile puisqu'aux enjeux locaux se mêlent évidemment des problématiques nationales. Je vous propose d'écouter le reportage de Julien Chavanne pour RFI.
Comment ça va ?
Si vous insistez.
Il a troqué la cravate pour une tenue plus décontractée, échange des bises et des poignées de main. Édouard Philippe visite ce matin l'association de sauvegarde du patrimoine maritime sur un quai venteux du Havre. Le chef du gouvernement a laissé son costume de Premier ministre à Paris. Les caméras sont maintenues à distance, la presse prévenue au dernier moment. Ici, il ne parlera que du Havre.
Quand je suis au Havre, je fais la campagne du Havre. Et je parle du Havre, et je parle aux Havrais et aux Havrais de ce que je souhaite faire dans les 6 années qui viennent pour continuer la transformation de la ville. Il y a peut-être des gens qui ont envie de faire leur campagne sur des sujets nationaux au Havre. C'est leur droit le plus strict, je ne le conteste pas, ils font bien ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon choix. Moi, je parle de ce que je veux faire.
Pas si simple de faire oublier ses fonctions à Matignon, la réforme des retraites, le coronavirus. Premier ministre du lundi au jeudi, candidat à la mairie le week-end. La double casquette interroge les Havrais.
Ça me dérange un petit peu. Quand on voit, on a demandé à la ministre de la Santé de démissionner pour faire campagne. Et Édouard Philippe, bizarrement, on ne lui a pas demandé de démissionner.
Ça me dérange pas trop. Je me dis qu'après, s'il est entouré d'adjoints et d'une équipe, j'ai envie de dire un manager, ça délègue. Hein.
Bah, ça gêne beaucoup de personnes. Ils disent qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Voilà.
Jean-Baptiste Gastine, l'actuel maire, gardera le fauteuil d'Édouard Philippe au chaud tant qu'il restera Premier ministre. Une opportunité pour les rivaux. Le Rassemblement national, arrivé en tête aux dernières européennes, compte bien transformer ce scrutin en référendum. Frédéric Groussard, le candidat RN, espère récupérer au passage des voix de droite.
Édouard Philippe subira un vote sanction, c'est clair. J'espère conquérir justement les voix des anciens républicains qui sont des gens souverainistes comme nous, nationalistes comme nous, mais qui ne souhaitent surtout pas rejoindre M. Macron dans sa politique dévastatrice.
Des affiches anti-Édouard Philippe signées de la CGT et de Gilets jaunes ont fleuri dans la ville. Mais le candidat communiste Jean-Paul Lecoq, lui, ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, fatigué par les questions des journalistes.
Qui sans cesse nous demande de commenter plus belle la vie de la candidature d'Édouard Philippe au Havre. Et nous, on aimerait qu'on nous pose la question. Que pensez-vous du fait qu'il n'y a pas assez de médecins pour soigner les habitants au Havre et qu'on a le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait pour ça ?
Exposé dans la bataille des retraites, attaqué sur sa double casquette, Édouard Philippe aura du mal à réitérer l'exploit de 2014. Il avait gagné la mairie dès le premier tour.
En Australie, le scandale des subventions sportives continue d'agiter la capitale, Canberra. L'affaire, vous le savez, a déjà coûté sa place à l'ancienne ministre de l'Agriculture, Bridget McKenzie. En fait, avant la dernière élection fédérale du mois de mai, elle était ministre des Sports et elle a accordé, au nom de cette fonction et en dehors de toute procédure officielle, des subventions conséquentes pour la construction d'installations sportives dans plusieurs circonscriptions que la coalition espérait remporter ou conserver. Alors on en était resté là dans cette affaire de clientélisme jusqu'à ce qu'hier, on apprenne que Scott Morrison a échangé directement plus d'une centaine d'emails avec Bridget McKenzie. Et d'après le contenu de ces emails, eh bien, ils discutent en détail de l'attribution de ces subventions en fonction non pas des besoins réels de tel ou tel club qui faisait la demande, mais bel et bien de l'intérêt politique à soutenir une association plutôt qu'une autre. Sans surprise, hier, les travaillistes se sont jetés sur cette affaire qui représente tout de même une enveloppe de 100 millions de dollars. Quant aux clubs sportifs qui n'ont pas reçu le moindre centime, eh bien, ils envisagent des poursuites en justice puisqu'ils estiment avoir été lésés lors du processus d'attribution. Et puis, pour finir ce journal, on jette maintenant un œil à la météo de ce jeudi. Des averses à Perth et une température de 33 degrés. Il fait beaucoup plus frais avec 22 degrés à Adélaïde qui est sous les nuages, 21 degrés à Melbourne, 27 degrés à Canberra où le ciel s'éclaircit, 25 degrés à Sydney également sous les nuages, 31 degrés à Brisbane où il pleut. Il pleut aussi à Cairns et à Darwin où le thermomètre montre respectivement à 33 et 31 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.